Religion du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue dans Religion du monde. L'été est une période propice pour tourner les pages des livres d'histoire qui peuvent apporter des éclairages inattendus, certes, sur notre passé, mais faire écho aussi à notre situation contemporaine. Il en est ainsi du livre de l'historien Bernard Cotteret, consacré au siècle de Lady de Nantes aux éditions du CNRS. Un ouvrage savant aux références nombreuses sur la coexistence religieuse entre catholiques et protestants au XVIIe siècle. Catholiques et protestants qui sortaient du fanatisme de 36 années de guerre de religion qui ont ensanglanté le royaume de France de 1562 à 1598. La signature, le 30 avril 1598 précisément, par le roi Henri IV, de Lady de Nantes instaure en effet une période de coexistence pacifique entre catholiques et protestants. Celle-ci va durer un petit siècle, 87 ans pour être précis, jusqu'à la révocation de cet édit de Nantes en 1685 par le roi Louis XIV. Bernard Cotteret, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Alors, vous auriez pu choisir de mettre le projecteur sur l'édit de Nantes, ou bien la faute politique et religieuse de sa révocation. Vous, c'est ce siècle, cette période qui couvre les trois quart du XVIIe siècle, donc jusqu'en 1685, que vous avez choisi de mettre en lumière. Pourquoi ?
Alors écoutez, j'ai voulu écrire un livre qui soit un livre d'apaisement. Vous savez que nous vivons une période dans laquelle en permanence on parle du phénomène religieux pour en décrire évidemment les effets maléfiques, en particulier les bouffées de fanatisme qui peuvent s'abattre ça et là, et le terrorisme évidemment auquel on pense énormément à l'heure actuelle. Et moi j'ai voulu montrer en fait que les religions avaient d'autres ressources en elles-mêmes, et en particulier une des ressources dont on ne parle pas suffisamment, c'est l'entente entre les croyants. Et je trouve que la période qui a été permise par Henri IV, avec son édit de Nantes, a été particulièrement propice, parce qu'on a vu, en l'occurrence, il s'agissait que des protestants et des catholiques, il n'y avait pas d'autres confessions sur le sol français, évidemment, mais ça leur a permis, effectivement, de dialoguer, évidemment, le plus souvent de façon polémique, c'est évident dans le contexte du XVIIe siècle, mais enfin, il vaut mieux ce dialogue même polémique que de se faire la guerre. Il faut bien voir ce dont on sortait. Et donc, j'ai trouvé que là, c'était un moment exceptionnel de l'histoire de France, dont on ne parle pas suffisamment. Vous savez, la France est fière, à juste titre, d'autres épisodes de son histoire. Je pense évidemment à la Révolution, je pense aussi à la Résistance. Eh bien, il y a un autre moment phare, à mon sens, et c'est le siècle de l'édit de Nantes, ce siècle qui commence en 1598 grâce à Henri IV et qui se terminait là, tragiquement, en 1685 avec la révocation.
Alors, effectivement, un siècle particulièrement fécond, hein, on va le voir ensemble, Bernard Cotteret, un siècle où il y a de grands esprits, où il y a de grandes joutes, où l'art également va être extrêmement florissant.
Oui, j'ai parlé beaucoup de la peinture, parce qu'effectivement, dans la peinture française, des chefs-d'œuvre absolus, je pense évidemment à Philippe de Champaigne, je pense aussi à Poussin, on a vraiment là un âge exceptionnel, et très souvent, on s'aperçoit que les thèmes qu'aborde cette peinture, en particulier sacrée, eh bien, retrouvent effectivement certaines de ces lignes de force que je dégage par ailleurs. En particulier, dans le monde catholique, l'importance accordée à l'Eucharistie. On a énormément de figurations de la dernière scène ou de l'Eucharistie célébrée par un prêtre. Et c'est une chose que j'ai voulu mettre aussi dans mon livre, parce qu'on a là quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de venir à Paris, de parcourir évidemment nos grands musées en France pour être frappé par la qualité exceptionnelle de cette peinture.
Et puis aller aussi en Italie.
Et bien entendu.
Évidemment. Évidemment.
Mais je parlais de la France.
Alors commençons, Bernard Cotteret, par l'édit de Nantes, 1598, qui met fin à 36 années de guerre de religion particulièrement sauvage. Alors aujourd'hui, effectivement, hein, ces dernières années, on a pu voir assister aux crimes terribles de Daesh, notamment. Hein, notamment, finalement, on se rend compte que c'était la même chose lors des guerres de religion au XVIe siècle.
Ces guerres de religion ont été l'horreur absolue. Il faut bien imaginer que toutes les horreurs que nous pouvons connaître à l'heure actuelle, eh bien, sont tout à fait équivalentes, effectivement, à ce que la France a connu sur son territoire au XVIe siècle. Alors là, il s'agissait d'affrontements qui étaient des affrontements entre catholiques et protestants, entre guillemets, parce que je pense pas que les questions purement religieuses aient beaucoup joué. C'est en fait une espèce de déchaînement de fureur et de furie. Et on imagine mal, évidemment, le degré de violence qui a été atteint. C'est véritablement la logique du massacre qui s'installe en France.
Alors, bien sûr, le plus connu, c'est celui de la Saint-Barthélemy.
Bien sûr. Bien sûr, le massacre de la Saint-Barthélemy au mois d'août, on est pas très loin évidemment de cette période maintenant. Chaque fois que j'arrive à cette période du mois d'août, moi
vous
j'y
y pensez en tant que protestant, vous êtes protestant, je l'ai pas dit, mais bon.
Oui, et puis je dirais en tant que français, en tant que chrétien, en tant qu'homme aussi, parce que voir les déchaînements de fureur qui ont été possibles à ce moment-là, c'est absolument comment dire, on en éprouve encore une grande émotion. Je vous rappelle que Voltaire lui aussi était malade tous les ans au moment de la Saint-Barthélemy.
Combien de morts cette nuit-là ?
Alors, la nuit elle-même, c'est difficile parce qu'il y a eu plusieurs Saint-Barthélemy. Il y a eu une première Saint-Barthélemy qui a été parisienne, alors plusieurs milliers, on ne sait pas exactement.
La date précise, hein, on est au mois d'août.
On est 24 août.
24 août,
donc la Saint-Barthélemy. Et donc, il y a une espèce d'enchaînement et qui va s'étendre à l'ensemble du royaume de façon très inégale. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui vont être touchées, d'autres qui ne vont pas l'être. On parle, mais évidemment, il n'y a pas de chiffres précis. C'est peut-être... est-on allé jusqu'à 10 000 morts, mais ça peut paraître excessif. Mais enfin, il y a eu plusieurs milliers de morts.
Alors, comment l'édit de Nantes a-t-il pu être signé en 1598 ? Qu'est-ce qui fait que c'est possible ?
Alors, il y a une chose que l'on ne voit pas suffisamment, c'est qu'Henri IV a un grand avantage, c'est qu'il a gagné. Il a gagné parce qu'il est le vainqueur, il est le vainqueur sur les champs de bataille, et il est quelqu'un d'extraordinairement intelligent, je crois qu'il faut, voir, et même de rusé, allons jusqu'au bout. Et donc, il s'est très très bien négocié, il s'est éventuellement payé aussi ses adversaires parce qu'il a de l'argent et qu'il sait l'utiliser, enfin, il utilise vraiment tous les moyens pour faire régner la paix, et il va mettre au point un système qui est extrêmement intelligent et dont on a souvent perdu le sens à l'heure actuelle, qui est celui de la monarchie absolue. C'est-à-dire que l'édit de Nantes, c'est vraiment l'affirmation même de l'état monarchique au sens où l'entend la monarchie absolue. Alors le principe de la monarchie absolue, c'est que le roi ne doit de compte qu'à Dieu. Alors évidemment, quand on transpose à notre époque, les gens vont dire « Ah, quelle idéologie absurde, insensée, comment on a jamais pu croire des choses pareilles ?» Bon, c'est vrai que dans l'abstrait, si vous voulez, on se demande comment on peut prétendre effectivement ne devoir rendre de compte qu'à Dieu quand on est un gouverneur.
Oui,
si on avait
façon,
un gouverneur à l'heure actuelle qui nous disait la même chose, il y en a peut-être quelques-uns encore, mais enfin, je crois,
oui.
Généralement, c'est assez mal vu. Enfin, bon, avec quelques exceptions peut-être.
C'est une étape dans l'histoire.
C'est
on va
une
dire.
Étape dans l'histoire. Mais à ce moment-là, c'est un autre sens. Ça veut dire que moi, Henri IV, moi, roi, moi qui ai le pouvoir, et dans le fond, qui vous demande de bien vouloir m'obéir, et si vous voulez pas m'obéir, vous m'obéissez quand même, parce que c'est moi qui commande ici, et c'est moi qui ai la force. Ça veut dire qu'Henri IV, à ce moment-là, a toutes les clés en main, et dit, effectivement, y compris au clergé des différentes religions, et ça c'est très important, c'est moi ici qui commande, parce que moi, je parle directement au Très-Haut, c'est le Très-Haut directement qui m'informe, et qui me rassure, me console, et me conforte dans mes convictions. Et donc, cette relation entre le roi et Dieu, en réalité, c'est ce qui lui permet d'imposer la paix civile.
Donc la monarchie absolue, finalement, est une sorte de rempart contre les divisions religieuses. On peut le voir comme ça.
Complètement. C'est extraordinaire parce que effectivement, le roi ne doit pas de compte au clergé, au pluriel, et dans le cas français, au XVIe siècle, en particulier au pape. C'est-à-dire qu'il ne demande pas au pape ce qu'il doit faire, et il l'impose aussi bien aux catholiques qu'aux protestants de son royaume. Et d'ailleurs, ils ne bronchent pas. Ils bronchent un peu, mais... Il finit par leur... Il y a des parlements, vous savez que les parlements devaient enregistrer effectivement les édits royaux pour qu'ils deviennent loi du royaume. Et on voit les parlements qui sont un petit peu tirés l'oreille, mais dans le fond, c'est quand même lui qui gagne.
Et il faut le rappeler, Bernard Cotteret, Henri IV s'est converti.
Henri IV s'est effectivement converti. Il s'est converti parce que il a pris la religion de ses sujets, en fait. Il a pensé qu'il était de bonne politique d'être de la même religion que son peuple, ce qui évidemment est indiscutable. Je pense que ça n'est pas uniquement, il ne faut pas l'envisager de façon purement cynique, et je crois aussi que ce sont ses convictions qui l'ont amené à se convertir. Mais il y a aussi évidemment un geste politique.
Donc à passer du protestantisme au catholicisme.
We'll be right back.
Alors, que va ouvrir cet édit de Nantes? Il ouvre une période de près d'un siècle où, on vient de le souligner, effectivement, c'est une période extrêmement riche, c'est une période extrêmement féconde, féconde, vous le disiez même, dans l'art, mais bien sûr féconde dans les débats théologiques. Et il y en a un qui est extrêmement important, et c'est même d'ailleurs quasiment l'introduction de votre livre sur le siècle de l'édit de Nantes, Bernard Cotteret, c'est le colloque de Poissy. Poissy, donc, en région parisienne, vallée de Seine, que nous connaissons davantage aujourd'hui pour ces sites industriels. Mais ce colloque de Poissy est fondamental, c'est une rupture.
Alors, ce colloque de Poissy se déroule dans un couvent qui a été prêté pour les circonstances par les dominicaines, qu'on appelle les nonnes de Poissy. Et ces religieuses ont prêté effectivement leur bâtiment pour une grande réunion au sommet qui est planifiée directement par le pouvoir royal, en l'espèce par Catherine de Médicis, avec le petit Charles IX qui est à côté d'elle. Et donc, ce que souhaite Catherine de Médicis, c'est un concile national, c'est-à-dire une réunion religieuse au plan national, qui mette un terme aux guerres de religion. Et elle s'est dit, avec un brin de naïveté, tout à fait entre nous, mettons les théologiens ensemble et on va avoir la paix.
C'est un petit flashback, Bernard Cotteret, puisque le colloque de Poissy a lieu quelques années avant l'édit de Nantes. Hein.
Oui, alors ce qui est important dans ce colloque de Poissy, c'est que, évidemment, la reine, dans sa naïveté, la reine mère dans sa naïveté, a l'impression qu'en mettant des théologiens ensemble, tout va aller mieux. Vous mettez des théologiens et puis évidemment, de leur débat va sortir la lumière. Et je peux vous dire qu'elle a fait là une grossière erreur.
Bah, on voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, quand on met des théologiens ensemble, ça ne marche pas du tout. Hein.
Bah, écoutez, je n'ose pas le dire, mais c'est un petit peu ce que je pense.
Dans le dialogue islamo-chrétien, si on commence à mettre la théologie dedans, ça, on s'entend
ne
pas.
Ne mettons surtout pas les théologiens.
L'amitié, voilà.
Voilà, mettons...
La rencontre.
Exactement. Mettons l'amitié, mettons la rencontre.
Ouais,
et mettons aussi ce que va faire Henri IV, le sentiment patriotique. C'est-à-dire, nous nous retrouvons tous ensemble en tant que concitoyens. Et je dirais que c'est un petit peu ce qui va être la recette de la laïcité quelques siècles plus tard. Et effectivement, le colloque de Poissy, cette naïveté extraordinaire de Catherine de Médicis, on met les théologiens côte à côte, ils vont discuter et comme ça, ils vont faire la paix. Or, c'est exactement le contraire. Si vous mettez les théologiens côte à côte, ils vont évidemment s'affronter et c'est ce qui se passe lors du colloque de Poissy. Alors, on a des théologiens catholiques tout à fait remarquables, des cardinaux, des grands cardinaux de la France du temps. Et puis, on a du côté protestant un personnage extraordinaire qui est un noble bourguignon, Théodore de Bèze, qui est né à Vézelay. Ceux d'entre nous qui connaissons Vézelay, nous situons bien les lieux. Et quand on va à Vézelay, évidemment, qui est un lieu magnifique de Bourgogne, actuel, quand on va à Vézelay, eh bien, effectivement, on passe devant la maison de Théodore de Bèze. Très souvent, on n'y fait pas attention parce que c'est pas la maison la plus notable à Vézelay, évidemment. Mais donc, c'est un noble de Vézelay. Il est le successeur de Calvin à Genève. Calvin est encore en vie au moment du colloque de Poissy pour quelques années. Et donc, il se retrouve là et il va se dire, dans le fond, si je conclue un accord avec les catholiques, ça va être sur un compromis qui vite va être une compromission.
C'est-à-dire, pas le genre de compromis, Théodore de Bèze. Hein.
Il voulait pas. Et donc, on va me demander de renoncer à ce en quoi je crois, et ça, je ne veux pas. Et donc, il va provoquer délibérément ses collègues théologiens de l'autre religion en leur disant, écoutez, votre Eucharistie, eh bien, je n'y crois pas, je ne peux pas croire. Et donc, à de telles choses, je ne peux pas croire que le Christ soit présent localement dans le pain, dans les espèces. Ça, c'est le grand argument qui va être celui de la réforme calviniste à partir de ce moment-là. Effectivement, le Christ n'est pas présent dans les espèces, mais les espèces sont un mémorial et le Christ est aux cieux. Et donc, ça, c'est l'argumentation de Théodore de Bèze. Évidemment, scandale, quand il profère ce qui apparaît comme un terrible blasphème à tous ces messieurs de Poissy, évidemment, tout est terminé très 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 rapidement, et les cardinaux qui sont des très finaux, vous savez, les cardinaux sont souvent des gens très finaux et qui ont l'habitude, sont des phrases de l'Église qui ont l'habitude des arguties infinies, qui vont essayer de lui répondre, et l'un des arguments utilisés par les cardinaux que je trouve extraordinaire, ils vont lui dire à Théodore de Bèze, écoutez, vous les protestants français, vous êtes quand même influencés par par Calvin, ils disent pas le mot, mais enfin, on l'entend quand même. Regardez de l'autre côté du Rhin, regardez en Allemagne, regardez Luther. Là, il y a une théologie qui nous est beaucoup plus sympathique.
Et puis, alors, il y a quand même, à cette époque, on a quand même le sens, effectivement, du mot. Il y a les protestants qui disent, ou c'est peut-être même Théodore de Besse qui dit, mais moi, je ne crois pas à votre dieu de farine.
Ah oui, le grand thème qui est le thème du dieu de farine. En fait, vous êtes dans la superstition, vous êtes, en employant un autre mot plus fort encore, vous êtes dans l'idolâtrie. On n'a pas à se prosterner devant un morceau de pain.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Bernard Cotteret pour son livre Le siècle de Lady de Nantes, publié aux éditions du CNRS. Alors, dieu de farine, effectivement, comme à l'époque, on a vraiment le sens, effectivement, de la répartie. Hein. D'ailleurs, c'est un siècle de grandes joutes oratoires.
C'est un siècle de grandes joutes oratoires. Il y a des gens célèbres qui participent à tous ces débats. En particulier, on le connaît pas tellement pour cette partie-là de son œuvre, mais Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard écrit des défenses et illustrations de la foi catholique face aux défis protestants.
Ah oui, disons, il aime pas les protestants.
Non.
Oula.
Excellent poète au demeurant, mais c'est un défenseur farouche des thèses catholiques, en particulier sur la question eucharistique. Et donc, effectivement, le débat va porter à partir de ce moment-là, sur la question eucharistique.
Et ça, il va durer un siècle. Même plus encore, en fait.
Même plus encore.
Jusqu'à nos jours, finalement.
J'ai l'impression que la grande différence entre catholiques et protestants, l'une des grandes différences entre catholiques et protestants, tient quand même à cette conception de l'eucharistie.
Si ce n'est que les luthériens, malgré tout, là, sont quand même beaucoup plus proches et catholiques sur ce plan-là.
Alors, je vais peut-être dire les choses très rapidement pour rendre les choses plus compréhensibles. Vous avez trois points de vue, en fait. Vous avez un premier point de vue qui est le point de vue catholique, qui est de dire, avec un langage qui est celui de dans une langue qui est celle de la scolastique, hein, de dire le pain et le vin ne sont plus là. Il y a plus la substance du pain et du vin, mais il y en a l'apparence qu'on appelle dans le vocabulaire scolastique les accidents. Donc on dirait du pain et on dirait du vin, mais ça n'est plus du pain et ça n'est plus du vin. Ce sont le corps et le sang du Christ. Ça, c'est le point de vue catholique. Ce qu'on appelle la transsubstantiation, il y a changement de substance. Vous avez le point de vue protestant réformé qui est de dire non, on est là en face d'espèces qui signifient. Donc, il n'y a pas de présence substantielle, mais il y a un rapport qui est un rapport de signification. Et un point de vue qui est le point de vue de Luther, et évidemment, on reproche aux protestants français de penser comme Calvin au lieu de penser comme Luther, de dire il y a les deux, il y a le pain et le corps, il y a le vin et le sang. Voilà. Ce qu'on appelle la consubstantiation, cum, avec, il y a à la fois le pain et à la fois le vin, et le sang et le corps. Voilà.
Mais ce débat, effectivement, va traverser, on se rend compte que c'est un débat, mais fondamental.
Complètement fondamental et qui n'a jamais cessé. Je veux dire, à ma connaissance, vous avez toujours effectivement, un fossé qui sépare les catholiques et les protestants sur cette question.
Les protestants qui disent pourquoi enclore Dieu dans du pain.
La grande critique qui est portée par les protestants aux catholiques, c'est de rétablir une forme d'idolâtrie.
Et que la vraie piété est intérieure.
Complètement. Et le catholicisme, évidemment, qui va répondre à l'inverse par une espèce de en ajoutant sur cette question, et on va développer à ce moment-là tout ce qui va être adoration du Saint-Sacrement, etc. dans la piété du XVIIe siècle, et ce qu'on trouve aussi de façon figurative dans l'art, c'est-à-dire cette survalorisation en fait du Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement que l'on peut, si vous me permettez l'expression, consommer de deux façons. Une première façon, c'est par la mendicité. Quand vous communiez au sens propre, c'est-à-dire vous allez prendre l'hostie, vous allez prendre le calice, enfin, encore que les catholiques ne prennent pas le calice, c'est réservé aux prêtres, mais là vous avez un premier type de communion, et il y a un deuxième type de communion qui est très important au XVIIe siècle, et on en parle très très peu, qui est une communion visuelle. C'est-à-dire, vous vous mettez devant l'hostie et vous l'adorez. Et il y a un développement de cette adoration de l'hostie qui va expliquer aussi, j'allais dire, l'importance de la peinture, parce qu'on va faire des peintures présentant des hosties.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, Bernard Cottret, et qui m'a fait penser à notre époque, hein, contemporaine, quand vous évoquez effectivement cette adoration du Saint-Sacrement à l'époque, qui est une forme de réponse hein, des catholiques aux
qui
protestants,
avant,
qui existe avant,
développe,
mais qui se développe, c'est ça, à ce moment-là. On retrouve cela aujourd'hui aussi avec des jeunes catholiques qu'on appelle de façon abusive catholiques identitaires qui effectivement pratiquent beaucoup l'adoration du Saint-Sacrement.
Je crois qu'ils retrouvent un certain nombre de formes ancestrales effectivement de la piété catholique et que le XVIIe siècle met en avant.
Ce que vous démontrez, Bernard Cottret, c'est que finalement la réforme protestante, ces débats théologiques de fond à l'époque, eh bien vont, je vais prendre une expression contemporaine, vont booster hein, les catholiques dans leurs réflexions. Alors certes, il y a eu le Concile de Trente, évidemment, hein, ce concile qui est donc de 1545 à 1563.
Très long,
très long. Bon, qui a déjà, bien sûr, il y a toute une réflexion extrêmement importante, qui a une très grande valeur, bien sûr, hein, dans tout le travail de réforme du monde catholique. Mais il n'empêche, les protestants vont mettre les catholiques au pied du mur face à des réformes probablement nécessaires ou à des réflexions nécessaires.
Oui, alors ce que j'ai voulu faire dans ce livre, vous m'avez présenté gentiment en disant que j'étais historien et protestant, et évidemment...
Et aussi historien du protestantisme.
Et, historien du protestantisme. Et je dis oui là trois fois en fait.
Vous allez abjurer, c'est ça?
Non, pas du tout, au contraire. Mais je voulais dire que j'ai écrit ce livre justement dans un esprit qui était un esprit de conciliation, en disant je ne suis pas là pour donner des bons et des mauvais points. Vous savez, j'aime pas tellement les historiens qui se prennent un peu pour Dieu lors du jugement dernier. Et qui disent qui avait raison, qui avait tort. Moi, dans le fond, c'est pas ce que je peux faire en tant qu'historien, mais ce que je peux faire, c'est décrire des comportements et montrer en fait des parallélismes, voire des discordances, et surtout qu'il y a une qualité intellectuelle intrinsèque que l'on trouve aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, que chez les catholiques. Quand vous prenez quelqu'un comme Blaise Pascal, si vous êtes protestant, vous pouvez très bien, évidemment, être touché particulièrement par le style extraordinaire, par la réflexion, par l'intelligence d'un Blaise Pascal.
Qu'est-ce vous avez retenu, vous, le protestant de Blaise Pascal, qu'est-ce que vous choisiriez dans sa pensée?
Dans ses pensées? Dieu est caché. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une formule que je reprends personnellement dans mes prières.
Et d'un réformateur catholique, qui citeriez-vous?
Alors évidemment, j'étais très très sensible à François de Sales.
Évêque d'Annecy,
qui était donc un savoyard, comme on le sait, qui appartient lui aussi à la noblesse et qui va voir d'ailleurs Théodore de Bèze. Ils ont un dialogue extraordinaire. Ce sont deux nobles là, des gens du même monde qui dialoguent et qui s'affrontent. Et donc, ce que j'ai trouvé extraordinaire chez François de Sales, d'abord, c'est un écrivain. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime d'abord les grands écrivains de la langue française. Si tous ceux qui n'ont pas lu François de Sales doivent absolument se précipiter et lire l'introduction à la vie dévote, parce que c'est un beau texte du XVIIe siècle. Il y a une littérature d'une qualité rare à ce moment-là, au XVIIe siècle. Et puis, c'est quelqu'un qui a compris une chose, qui était très importante. Et à l'époque, on ne disait pas suffisamment. Il a compris d'une part que la religion était pour les laïcs, et pas uniquement pour le clergé. Vous savez, il y a toujours un peu cette tension entre une conception de l'Église qui est restreinte aux prêtres.
Élitiste. À l'époque, oui.
Bien entendu, beaucoup de gens diront que c'est dépassé, mais je veux dire, c'est quand même une tendance lourde qui existe dans le catholicisme, à mon avis. Bon. Et puis, d'autre part, les femmes. C'est-à-dire qu'il a compris aussi qu'il fallait s'adresser aux femmes. Et aux couples mariés. Et ça, c'est magnifique. Parce que si vous voulez, si on a vraiment quelqu'un qui est sensible justement à la qualité d'âme de ses fidèles.
Et je me suis même demandé, en lisant vos pages, Bernard Cottret, justement sur François de Sales, s'il n'était pas en quelque sorte, pas l'inventeur, mais celui qui annonçait par exemple une Sainte Thérèse de Lisieux, où il y a de la sainteté dans le quotidien.
Et c'est exactement cela. C'est exactement
ça.
Pour moi, il y a une filiation évidente, effectivement. Sainte Thérèse de Lisieux, évidemment, que l'on connaît mal, à part certains milieux qui sont des milieux très, 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 très catholiques, si vous voulez. Mais je pense que Thérèse de Lisieux, j'en parlais avec un de mes amis prêtres récemment, qui me disait que c'était véritablement un auteur à lire et à découvrir pour ceux d'entre eux qui ne l'avaient pas lu.
Mais alors, François de Sales, il est quand même, c'est un homme très torturé.
Oui.
Et notamment, alors, il rejoint quand même les protestants,
oui,
et il va falloir...
Je vois
oui, oui, ben, on y arrive, la oui. prédestination.
Oui, oui.
Alors, qui est quand même aussi le grand thème majeur, qu'il faut quand même expliquer, parce que c'est vrai que ça paraît tellement scandaleuse de se dire que il y a des ceux qui sont prédestinés à, on va dire, au paradis, à la vie éternelle, et puis les autres non. On ne sait pas pourquoi, mais ils ne sont pas prédestinés. Ça paraît intenable comme position aujourd'hui, non ?
Alors, je veux dire qu'à l'heure actuelle, on a du mal à comprendre l'importance de ces querelles sur la prédestination qui ont marqué non seulement le protestantisme, comme on le dit souvent, mais également le catholicisme. Parce que l'une des coupures à l'intérieur du catholicisme porte effectivement sur la prédestination. Vous savez que la prédestination donc avait été développée en particulier par saint Augustin. Alors vous avez une lecture très fervente de saint Augustin qui se développe au XVIIe siècle, autour de l'abbaye de Port-Royal et de gens comme Pascal en particulier. Et donc cette lecture de saint Augustin, elle va amener à se poser la question de la prédestination avec une très grande intensité. Et de l'autre côté, chez les catholiques, vous avez les jésuites qui, eux, évidemment, sont très, 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 contestent énormément l'interprétation que les jansénistes, comme on va en venir à les appeler, donnent de la prédestination. Donc, il y a une coupure sur la prédestination qui est interne aux deux confessions. Chez les catholiques comme chez les protestants, on a des gens qui accentuent ou des gens qui, au contraire, minimisent la question de la prédestination. Alors, pour nous, la prédestination, c'est quelque chose d'un petit peu extraordinaire, parce que penser qu'un Dieu dont on vous dit qu'il est un Dieu bon a décidé que certaines de ses créatures étaient condamnées à la damnation éternelle, alors avec des interprétations plus ou moins strictes à ce moment-là, vous savez qu'on peut aller jusqu'à se poser la question, est-ce que cette condamnation a été avant ou après la chute d'Adam, avec les infra et les supralapsaires, enfin on va pas entrer dans tous ces détails aujourd'hui, mais effectivement il y a là un grand débat du XVIIe siècle. Pour l'historien, la question se pose à peu près de la manière suivante. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment de son histoire, on voit tous ces hommes qui sont obsédés par une question,
torturés
par une question. Et pourquoi est-ce qu'un siècle ou deux siècles ou trois siècles plus tard, ils ont complètement oublié ? Je veux dire que maintenant, des gens torturés par la prédestination, j'en ai rencontré, mais très très très, très peu, je dois vous dire. J'en ai rencontré quand même, mais vraiment, c'est une minorité. Je crois que la majorité des chrétiens, catholiques comme protestants, ne croient pas du tout à ces questions de prédestination et ont du mal même à se les expliquer. Alors moi, je suis moins dur que vous, peut-être, par rapport à la prédestination, parce que je pense que, vous savez, je me suis trouvé aux Pays-Bas je vous raconte une anecdote.
Où beaucoup de protestants sont partis après la révocation des édits de Nantes, on en parlera, oui.
Oui, tout à fait. Et où il y a, évidemment, des gens qui sont très attachés à la prédestination, qu'on appelle les re-réformés. Vous savez, ils sont réformés deux fois, si j'ose dire. Et je me retrouve parmi ces re-réformés, et après, évidemment, j'étais interviewé par eux pour leur presse paroissiale, et alors ils me posent la question, après, fatidique, monsieur Cotteret, est-ce que vous croyez à la prédestination ? Alors, je me suis dit, oh, je suis là avec des calvinistes stricts, est-ce que je vais est-ce que je vais oser une réponse de jésuite ? Et je leur ai fait une réponse de jésuite, je dis, vous savez, c'est une façon de parler. Et à ce moment-là, évidemment, vous pouvez pas jouer à ça avec des Néerlandais. Vous savez, ils plaisantent pas du tout, les Néerlandais, sur ces questions-là. Et donc, oui, mais vous, qu'est-ce que vous croyez? Et là, évidemment, je ne savais plus très bien quoi répondre.
Il fallait relancer une question dans ces cas-là.
Mais l'histoire n'est pas terminée, parce que je rentre chez moi en France, et je me dis, il faut absolument, l'entretien avait été en anglais, il faut absolument que je voie comment ils ont retranscrit mes propos. Et je connecte sur leur site, c'était un dimanche matin, et je dis, voilà, je parle pas néerlandais, mais j'ai arrivé à retrouver à peu près le sens pour parler allemand et anglais. Eh bien, à ce moment-là, je me suis aperçu que je ne pouvais pas accéder au site et que j'avais une notice qui s'affichait. Nous sommes dimanche, et le dimanche, pas de lecture profane, il faut aller au culte et lire la Bible. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et le lundi, je me suis aperçu qu'ils avaient bien retranscrit mes propos.
Oh,
Le siècle de Lady Nantes, Bernard Cottrel, donc le thème de votre livre, c'est aussi quand même celui de la sorcellerie, encore et toujours, avec là aussi de grandes violences.
On est frappé, quand on voit ce qu'a été le XVIIe siècle, de constater, le XVIIe siècle français, même pas uniquement français, de constater effectivement la présence au quotidien du diable. Cette espèce de crainte que l'on a du diable et cette idée que le diable vient parmi nous en permanence, parfois s'approprie le corps d'un certain nombre de pauvres âmes, effectivement, qui d'un seul coup sont dépossédées d'elles-mêmes et qui effectivement se mettent à tenir des propos incendiaires, des propos blasphématoires, des propos qu'elles ne veulent absolument pas tenir. Et donc on a cette idée non seulement d'une présence du diable, mais de possession. Et la possession est un des grands thèmes de la littérature pieuse de la première moitié du XVIIe siècle. Et je me suis posé la question, dans le fond, pourquoi ? Et pourquoi est-ce que vous avez deux discours qui se concurrencent à partir de ce moment-là ? Le discours qui est celui des exorcistes, un discours religieux qui consiste à affirmer effectivement la présence du diable chez le corps de l'exorcisé. Et puis un deuxième discours qui de plus en plus va se substituer au premier, qui est le discours médical, qui est de dire là où vous voyez un possédé, moi je vois un malade et il faut soigner ces gens-là. Et on voit les deux effectivement qui s'affrontent dans le premier XVIIe siècle. Et ce qui m'a frappé, c'est que l'argument théologique, qui est quand même très intéressant, qu'on trouve chez Pierre de Bérulle, qui a été un des grands esprits du catholicisme français du XVIIe siècle. Donc, lui soutient l'existence, effectivement, de possédés. Et pourquoi est-ce qu'il veut absolument défendre l'existence de possédés? Parce que les possédés, ça lui permet de revenir à un de ses thèmes de prédilection, qui est l'incarnation. C'est-à-dire que si le diable peut s'incarner chez les possédés, ça montre bien que Dieu lui-même a pu s'incarner dans le Christ. Jésus. Et donc cette obsession de l'incarnation qui en fait est une réponse, je dirais, à cette obsession effectivement de la possession.
La vision médicale que vous évoquiez il y a quelques instants, Bernard Cottrel, de la sorcellerie, on peut supposer qu'elle est tout à fait partagée par les protestants.
Alors évidemment, les catholiques et les protestants sont évidemment la même culture. Je pense que les protestants sont peut-être un peu plus rationalistes que les catholiques dans leur ensemble, mais il y a des exceptions. Et en particulier, je cite le cas d'un brave pasteur de Mâcon au XVIIe siècle, et qui lui raconte des histoires de possession et de diable, d'esprit frappeur. Alors, on ne sait pas très bien si c'est le diable ou si c'est une espèce d'être un peu étrange qui se manifeste, mais enfin, il y a des manifestations démoniaques, et les protestants eux aussi croyaient à ces manifestations démoniaques, peut-être moins que les catholiques, mais ils y croyaient également.
Et Calvin n'a pas hésiter à Genève à faire brûler
les sorcières.
Les sorcières.
Bien entendu, bien entendu. Je dis bien entendu parce que il y avait un consensus là-dessus. Les bons chrétiens n'hésitaient pas à faire brûler des sorcières. Est-ce qu'ils étaient bons? Ça, c'est autre chose.
Le cycle de Lady de Nantes, Bernard Cottrel, le thème de votre livre, c'est celui des saints aussi. Et parmi ces saints, beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que c'est le siècle des femmes. Pourquoi? En tous les cas, c'est la vision que vous en donnez.
Oui, alors très souvent, on parle de siècle des saints au masculin.
Oui.
Et moi, j'ai ajouté que le siècle des saints, c'était aussi le siècle des saintes. Et ce qui m'a frappé, c'est effectivement, et ça, c'est d'une des grandes forces du catholicisme au XVIIe siècle, d'avoir su s'adresser aux femmes et d'avoir su leur donner un rôle assez considérable, en particulier dans les ordres religieux féminins, qui sont très, très importants à ce moment-là, dans la contre-réforme, avec les Ursulines, par exemple, qui sont un ordre qui enseigne. Il y a beaucoup d'ordres hospitaliers aussi. Et donc là, vous avez un catholicisme qui a été très, très actif auprès des pauvres, des malheureux, des malades, des éclopés en tout genre. Et ça, c'est une grande force. Et vous avez effectivement beaucoup de femmes qui trouvent, en fait, ce que l'on ne dit pas généralement. Vous savez, quand on parle des vocations religieuses, on le fait souvent, enfin, pas vous, Geneviève, mais pas tout le monde ici, mais très souvent, il y a une espèce de petit sourire un peu narquois. Vous avez la bonne sœur. Bon. Et en réalité, je trouve que c'est un peu une facilité. Et qu'en réalité, ces femmes, c'était des femmes qui, pour beaucoup d'entre elles, rompaient avec leur milieu.
Des maîtresses-femmes, souvent.
C'était des maîtresses-femmes. C'était des femmes qui ne voulaient ne dépendre ni d'un père, ni d'un mari.
Elles voulaient s'émanciper.
Et qui voulaient s'émanciper. Et je crois qu'il y a là un phénomène qui est très intéressant. Et comme dans ce livre, j'ai mis en parallèle les catholiques et les protestants, il n'y a pas de symétrie, en l'occurrence. C'est-à-dire, il y a les prêtres et les pasteurs exercent à peu près les mêmes fonctions, même s'il y a des différences notables sur le plan théologique, mais enfin, ils prêchent, etc., ils tiennent des assemblées, ils baptisent, enfin, je ne vais pas faire la liste. Alors que, dans le catholicisme, il y a un rôle des femmes qui est surévalué par le biais, effectivement, des ordres religieux. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante, à mon avis. C'est une chose sur laquelle on n'a pas suffisamment insisté et qui montre, effectivement, qu'un certain nombre de ces personnages ont pu, véritablement, être très, très en avance sur leur temps. Par exemple, l'une des choses essentielles pour nous Français, c'est évidemment le Canada. Le Canada, très souvent, ce sont des femmes. Alors, vous savez ce que l'on dit, on dit
alors,
toujours.
Alors, vous en citez une tout à fait.
Marie Guyard de l'Incarnation. On dit toujours, ce sont les femmes prostituées qui sont allées au Canada. Alors, écoutez, c'est un peu les filles du roi. C'est un peu simple. Il y a aussi les religieuses et qui ont joué un rôle absolument considérable. Et je crois qu'elles se sont occupées en particulier des jeunes indiennes qu'elles ont alphabétisées. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant. Et moi, je parle d'une de ces femmes admirables qui est mère Marie Guyard de l'Incarnation. Je suis allé à Québec avec beaucoup d'émotion sur les lieux où elle avait vécu.
Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est qu'elle avait un fils, elle était veuve, hein. Elle avait un fils qu'elle a quand même laissé pour rentrer dans les ordres. Ça, alors, c'est quand même... Bon, là, c'est un petit peu le point gênant de cette histoire. Cette femme qui a été canonisée par le pape François en 2014, hein,
oui,
c'est cela.
Oui, c'est une très belle histoire. Et pour nous, au XXIe siècle, cette femme qui abandonne son fils pour entrer dans les ordres,
oui, ça
évidemment,
coince.
Nous avons un peu de mal. Mais
la fin est très admirable.
L'historien décrit, il ne porte pas de jugement de valeur.
Alors, parmi ces femmes, il y a les mystiques. Mais alors ça, les protestants n'apprécient pas beaucoup les mystiques.
Hein. Oui, donc on parlait des possibilités de parallèle entre les deux confessions, les catholiques et les protestants. Et il y a deux, trois domaines dans lesquels c'est beaucoup plus difficile de faire ces parallèles parce qu'en fait, il y a des asymétries. Alors, le premier de ces domaines, évidemment, c'est la vie religieuse, puisqu'il y a des femmes religieuses dans le catholicisme, alors qu'il n'y a pas d'équivalent strict dans le protestantisme, du moins au XVIIe siècle. Premier phénomène. Et puis, deuxième phénomène, à mon avis, là, je parle du protestantisme français, serait peut-être différent dans le protestantisme allemand, dans le protestantisme luthérien, mais il n'y a pas de mystique. Et je dirais même qu'il y a une espèce d'abomination de la mystique. D'aversion pour la mystique. On déteste la mystique ou tout ce qui y ressemble. Alors, il y a un ou deux cas de mystiques protestants parce que le mysticisme est très difficile de le contenir, comme chacun sait. Mais globalement, les protestants français du XVIIe siècle ne supportent pas la mystique. Alors qu'au contraire, le catholicisme, c'est le grand âge de la mystique, évidemment, à partir du XVIe siècle et de l'Espagne en particulier.
Sur ce parallèle, précisément entre catholiques et protestants, leur point de convergence, Bernard Cotteret, à un moment donné du livre, enfin dans plusieurs passages, on a le sentiment, peut-être que celui-ci est exagéré, qu'à un moment donné, une concorde aurait pu être possible, un retour à une chrétienté qui aurait englobé ces protestants qui se seraient peut-être un petit peu affadis, peut-être, ou qui auraient pu retourner petit à petit dans le giron, un giron d'un catholicisme un peu plus souple. Enfin, je ne sais pas si le terme est bien choisi. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où cette concorde aurait été possible ?
Ben, il y a eu des projets, et il y a eu des projets qui ont généralement échoué, évidemment, puisque
avec
on
les
voit
gallicans,
bien le
résultat. C'est ça. Hein,
en particulier d'une église française, une église gallicane, qui soit relativement autonome, et en particulier qui prenne des distances, évidemment, par rapport à Rome. Et ça, c'est quelque chose, c'est une tendance lourde, je dirais, dans l'histoire des églises en France. Il y a une tendance gallicane, à mon avis, qui d'ailleurs n'a pas totalement disparu, en fait.
Donc, c'est-à-dire indépendance par rapport au pape.
Rapport au pape, essentiellement. Et puis, à ce moment-là, pourquoi ne pas trouver des voies de convergence? Vous savez, ce qui m'a frappé, c'est dans le protestantisme et dans le catholicisme actuel. Ma petite expérience, parce que j'ai pas mené d'enquête là-dessus, mais enfin, je suis allé dans diverses églises protestantes, à Paris et ailleurs, et je me suis aperçu que très souvent, dans nos églises protestantes, il y avait des catholiques. Beaucoup plus qu'on ne pense, et qu'il y a pas mal de catholiques qui vont aussi chez leurs amis, de protestants qui vont aussi chez leurs amis catholiques. Donc je crois qu'il faut bien voir qu'en fait, le paysage est beaucoup plus nuancé qu'on imagine, et qu'il y a des convergences vécues. Et je crois que ces convergences vécues sont beaucoup plus importante en fait que les discours des théologiens.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Alors, Petit à petit, Bernard Cotteret, après avoir décrit ces trois quarts du XVIIe siècle si fécond, de cette période de l'édit de Nantes, on va aller vers la révocation. Et là, vous faites un lien entre, alors il va falloir bien l'expliquer, avec le cataclysme, c'est le terme, qu'a représenté en 1649 l'exécution du roi Charles Ier d'Angleterre. Pourquoi l'exécution sur l'échafaud du roi Charles Ier d'Angleterre, qui va ouvrir une courte période de république en Angleterre, pourquoi ça va inciter le roi Louis XIV, qui va commettre cette énorme bourde... De révoquer l'édit de Nantes.
Alors, cette révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685 a été effectivement une catastrophe, parce que cette révocation a mis un terme, effectivement, à une période de coexistence quand même très réussie entre les confessions, et que globalement, le catholicisme, parce qu'il était majoritaire, était en train de gagner des positions. Et à partir du moment où les protestants ont été persécutés à nouveau, évidemment, eh bien, c'était la fin de toutes ces possibilités d'entente à la base entre les confessions. Donc ça a été une erreur considérable. Mais il y a une autre chose, je crois, qui est importante et que l'on ne comprend pas très souvent, c'est que le protestantisme français au XVIIe siècle, on le voit toujours comme un ennemi irréconciliable des monarchies. C'est absolument faux.
Je crois que c'est le contraire.
C'est exactement le contraire.
C'est
exactement. Le protestantisme français, à partir d'Henri IV, tient grâce au roi.
Il est protégé.
C'est le roi qui protège effectivement ces protestants et qui leur permet de ne pas être englouti par un certain nombre de catholiques qui auraient eu des intentions moins pures, si j'ose dire. Et donc, effectivement, ils tiennent par la monarchie. Or, en 1649, il y a cette révolution anglaise qui éclate, effectivement, et qui aboutit à l'exécution du roi Charles Ier, et donc les protestants perdent leur image favorable auprès des monarchies. On a l'impression que le protestantisme conduit au régicide, conduit à l'exécution du roi, conduit à la République, et donc cette espèce d'âge d'or, eh bien dans le fond, il ne lui reste plus que quelques années à vivre jusqu'à la révocation des l'édit de Nantes.
Oui,
et ça, je crois que ça a été le décisif, cette révolution anglaise, dans le discrédit qui s'est attaché aux protestants.
Oui, c'est ça. Donc, révolution anglaise menée par des protestants purs et durs qui vont
amener... Qu'on appelle les puritains.
Les puritains, oui. Donc qui exécutent un roi anglican, c'est-à-dire, bon, voilà, proche du catholicisme quand même.
Et qui surtout a une femme catholique, une fille d'Henri IV, Henriette Marie, qui est quelqu'un tout à fait prodigieux, ce Charles Ier, qui a été très courageux jusqu'au bout. Et si vous voulez, moi j'ai compris certaines choses en pensant aux chrétiens orientaux.
Oui, vous faites un parallèle, effectivement.
Oui, oui. Parce que on dit les chrétiens orientaux, dans un certain nombre de cas, ont soutenu des régimes dont on peut penser
Assad,
du mal.
Oui, voilà. Assad, en Syrie,
pour le nommer, bon. Et en réalité, je comprends tout à fait cette attitude qui est la leur, parce que quand vous êtes dans une position de faiblesse extrême, vous dépendez effectivement du pouvoir fort. Alors même si, à la limite, vous désapprouvez un certain nombre de ces actions, il est évident que vous êtes amené parfois à soutenir des gens que vous n'appréciez pas jusqu'au bout.
Alors, la révocation de l'édit de Nantes, c'est, c'est les protestants perdent toute liberté religieuse, ils perdent leur place, ils perdent leur lieu de culte, les pasteurs sont obligés de partir, la violence revient. La violence revient, donc ils partent, beaucoup partent à l'étranger, et la France va se vider quand même d'une partie de ses élites, non? Enfin, c'est une image.
Oui, oui.
Alors, je sais que vous n'y souscrivez pas, mais quand même, c'est une remarque qu'on peut se faire, non?
Moi, je pense que la révocation de l'édit de Nantes, pardonnez-moi, a été une bénédiction.
Ça a francisé l'Europe, vous dites.
Absolument. Bon. Ça a été doublement une bénédiction, d'une part parce que, bon, une partie de nos élites sont parties, mais enfin, elles sont parties, parfois pour revenir, mais souvent pour rester ailleurs, mais effectivement pour franciser l'Europe. C'est-à-dire que si on s'est mis à parler français à Berlin et puis un peu partout aux Pays-Bas, un peu partout dans cette Europe du Nord, c'est aussi parce que les protestants étaient là qui diffusaient la culture française. Donc moi qui suis un ami de la culture française et de sa diffusion, évidemment, partisan de sa diffusion, il est évident que je ne peux que me réjouir de la révocation de l'édit de Nantes sur ce plan. Et puis deuxièmement, sur le plan intérieur, les protestants qui sont restés étaient en train de s'affadir. Ils étaient en train de perdre leur temps à des querelles théologiques complètement incompréhensible dans les années 1670-1680, et d'être persécutés de cette façon, ça les a amenés à revenir au contenu profond de leur foi, ce qui, à mon avis, est quelque chose de tout à fait fondamental. Et en particulier, vous l'avez dit, Geneviève, ils n'avaient plus leur pasteur, eh bien, ils ont appris à s'en passer. Et je crois que l'expérience fondamentale des protestants, c'est de savoir que l'on peut se passer de pasteur. Il suffit que l'on se retrouve autour d'une Bible.
En assemblée.
En assemblée. Et effectivement, le Christ est parmi vous.
Et également, un autre effet, c'est que finalement, l'autorité de l'écriture, qui a toujours été le cas, bien sûr, dans le protestantisme, prend encore plus de place, puisqu'il n'y a plus, il n'y a plus pasteur. Cette écriture qu'on peut réinterpréter, relire. C'est bien cela. Il y a un travail d'interprétation. Et ça, c'est fondamental aussi.
Il y a un travail de lecture, un travail de partage et un travail d'interprétation, évidemment, et d'actualisation. Ça, c'est le fait même de toutes les assemblées protestantes. Et évidemment, tout cela va être revivifié à partir du moment où les églises vont se retrouver sous la croix, comme l'on dit, c'est-à-dire persécutées.
La croix huguenote ? Parce que c'est là où la croix huguenote va émerger.
C'est là que la croix huguenote, évidemment, va émerger.
Et oui, cette croix huguenote, quelle est sa caractéristique ?
Alors, la croix huguenote, apparemment, ce serait la reprise du collier du Saint-Esprit. C'est une chose que l'on m'a dit.
Pour conclure, Bernard Cotteret, notre entretien et votre livre sur le siècle de l'édit de Nantes. Quel message pour aujourd'hui ? Là, je pense, par exemple, aux luttes fratricides entre les chiites et les sunnites, avec ces lots de mort, par exemple, lors des pèlerinages. On voit ça, effectivement, ces bombes déposées, ces kamikazes, etc. L'horreur. Et est-ce que la concorde, finalement, qui a pu se faire, notamment au moment de l'édit de Nantes, et puis après, bien sûr, après la Révolution française, entre catholiques et protestants, est-ce que c'est un message, par exemple, pour le monde musulman ?
Pour moi, ce livre est d'abord un ferment d'espérance. Et je voudrais vous dire que je me suis intéressé à cette question de l'édit de Nantes initialement, lorsque l'on préparait en France l'anniversaire de l'édit de Nantes en 1998. Et j'étais présent à l'UNESCO quand Jacques Chirac avait prononcé un très très beau discours, justement, qui était un discours d'apaisement sur les différents conflits religieux. Et ce qui m'avait beaucoup touché à l'époque, c'était de voir que parmi les auditeurs les plus fidèles, vous aviez énormément de musulmans, en particulier d'Algérie, mais pas exclusivement, qui avaient été frappés et touchés dans leur chair, évidemment, par ces déchaînements de violence absolument affreux des années 90. Et effectivement, quand je leur parlais de tout ce que je connaissais sur notre 16e siècle et sur les déferlements de violence des guerres de religion, eh bien, ça les touchait. Et à ce moment-là, ils se mettaient à parler, eux, à la première personne et au présent. Et pour moi, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions partagées avec eux. Et je pense qu'il y a une grande humanité qui ressort de tout cela. C'est vraiment ce qui est important pour nous, c'est d'abord cette leçon d'humanité.
Et que les religions peuvent être facteurs, si elles peuvent être facteurs, effectivement, de violence, elles sont aussi un facteur de paix, c'est
alors,
cela ?
Alors, je vais vous faire une confession de foi, si je peux me permettre.
Allez-y, je vous écoute,
je vais faire ma confession de foi ici. Pour moi, la seule véritable église, c'est l'humanité.
Merci Bernard Cotteret. Belle phrase de conclusion à notre échange et puis à votre livre « Le siècle de l'édit de Nantes » aux éditions du CNRS. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonnessy vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.